Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite de la magnifique émission d'Adil Farkan et sa troupe. Les informants, on le rappelle, 19h-20h et votre quotidienne sportive qui revient justement assez vite avec l'actualité assez chargée en ce 22 novembre 2021. Eh oui, lundi soir, on va parler de quoi? De ce triste Olympico, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, le triste spectacle Manchester United, mais aussi le Paris Saint-Germain, peut-être le cadeau fou pour cette fin de d'année avec Zidane peut-être du côté de la capitale française, et sans oublier la première d'un certain Xavi avec le FC Barcelone. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur l'antenne de Beurre FM avec notre équipe de réalisation en la personne de Giovanni et Yanis, nos réalisateurs qui se font un plaisir pour vous faire passer à l'antenne. On n'oublie pas cela, et oui, ça aussi, ça tweet avec toute l'équipe de Tamsport sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou encore Twitter. Allez, on va écouter le JT Sport de ce premier jour de la semaine avec Jason. C'est parti, go Tamsport.
Time Sport.
On démarre les infos du lundi par des nouvelles de dernière minute concernant Kylian Mbappé, malade et absent de l'entraînement du Paris Saint-Germain ce lundi, à deux jours du choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Affaire à suivre, bien évidemment. Week-end riche en victoires pour le sport français ce week-end. D'abord, au rallye de Monza, le pilote Sébastien Ogier a été sacré champion du monde des rallyes pour la 8e fois avec son copilote de toujours, Julien Ingrassia, qui lui prend sa retraite sportive de la plus belle des manières. Encore des Français champions du monde en voile cette fois-ci, Marion Mortefond et Nicolas Goyard, vainqueurs en PWA de slalom et de foil ce week-end. Et enfin, le dernier champion du monde français du week-end en karaté cette fois, Steven Dacosta, conserve son titre en catégorie moins 67 kg grâce à sa belle victoire face à Émile Pavlov. Et on termine encore en beauté en rappelant aussi la victoire du 15 de France en rugby face au All Blacks samedi soir 40 à 25 et boucle leur tournée d'automne invaincue. Voilà comment lancer une belle semaine sur Time Sport avec Bilal et toute l'équipe. Bonne émission à toutes et à tous.
Et il est parfait, le rédacteur Jason. Merci Jason. Magnifique, avec Abdel aussi qui est là ce soir pour cette première de la semaine. Comment ça va Abdel?
Très bien, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là.
Ah oui Abdel, toujours pimpant, tout comme son homologue. Ah là là, le British Mourad. Comment ça va Mourad?
Ça va très bien Bilal, bonsoir à toutes et à tous.
Ah, Yacine est avec nous ce soir. Comment ça va Yacine?
Ça va, mais j'étais ça va jusqu'à il y a 5 minutes. Après, il y a quelqu'un qui est présent avec nous sur le plateau. Ouais. Qui sort une immensité,
ah ben,
qui
dit
qu'Arsenal, c'est pas un grand club anglais.
Ah ben on verra bien. Arsenal.
Alors, est-ce que je vais dire le nom, c'est qui ou pas?
Mais non, ne le dis pas encore. Ne
voilà,
le dis pas
encore.
Yacine, quand même. Ouais. Boula est de la partie aussi. Comment ça va, Boula?
Salam alaikum à tout le monde.
Aïkou salam wa rahmatullah barakat. Il faut te rendre le salam. Comment ça va, Boula? Très bien. On l'aura compris. Voilà, Boula, il ne faut pas l'énerver, le titiller ce soir. Et Hervé, juste à côté de Boula, comment ça va?
Bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous les auditeurs de Beurre FM.
Eh bien, justement, on va s'attarder sur Alain, premier invité. On a l'habitude de l'avoir sur l'antenne de Beurre FM pour suivre son parcours, son aventure. C'est Bilal Aventure. Allez, le lundi et le jeudi, on l'a sur l'antenne. On y va.
Time Sport.
Bonsoir, Bilal. Comment ça va?
Et bonsoir tout le monde, ça va ou quoi? Vous allez bien?
Ça va très très bien, un plaisir de vous entendre Bilal. Comment ça va? Le soleil et aussi les aventures sont là au rendez-vous?
Ben écoutez, grâce à Dieu, tout se passe très bien, on continue l'aventure. Merci Beurre FM tout d'abord, merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Écoutez, là donc là, on a quitté l'état de Bahia qui est au nord-est donc de la ville de Porto Seguro, on s'est vu il y a quelques jours. Et du coup là on est descendu un peu plus de 1200 km au sud-ouest du côté de l'état de Minas Gerais,
ouais.
Sur la ville de Capitolio. Voilà, je suis à Capitolio.
Capitolio, ouais. C'est pas... ouais, justement, là-bas.
Donc alors ici, comment ça se passe? En gros, voilà, alors, c'est une ville, c'est pas une ville littorale, il n'y a pas de mer, mais
ouais.
C'est un peu comme... pour ceux qui connaissent les gorges du Verdon en France.
Ah bah c'est nickel ça, les gorges du Verdon.
L'arrière-pays niçois.
Ouais. Ouais, prends ça.
Là, c'est l'arrière-pays de Sao Paulo, c'est ça?
Comment?
Non, je plaisante, c'était une petite boutade, mais tu ne nous entends pas. J'avais oublié que tu ne nous entendais pas.
Non, il entend, arrête un peu, il entend.
Mais j'entends pas super.
Désolé.
Justement, il aime bien blaguer. Ouais, l'arrière-pays niçois, c'est pas l'arrière-pays niçois,
Mourad. C'est les gorges du Verdon, c'est l'arrière-pays
niçois. Non, Mourad, non. C'est une boucle.
Tu vas confondre avec les gorges du Tarn.
Non. Les gorges du Verdon, c'est l'arrière-pays provençal.
Mais maintenant, il nous parle du Brésil ou vous nous parlez de la France?
Non.
Il nous parle du Brésil, s'il vous plaît.
Entre les Alpes et la Côte d'Azur, les gorges du Verdon.
Une petite partie. On n'a pas chipoté, hein. Voilà.
Donc, Ici, on a du côté de Capitolio, qui est une petite commune qui compte à peu près 8000 habitants, donc on est plus de 16 habitants au kilomètre carré. On est à un peu plus de 500 km de Rio de Janeiro et un peu plus de 400 km de São Paulo. Donc on est ici, on va voir un petit peu la culture locale. La se ressemble beaucoup à. Voilà. C'est qu'en fait, ils ont la culture. Donc le fromage est très développé ici. Donc ils aiment beaucoup ça, ils aiment beaucoup le fromage, donc ça m'a rappelé un peu la France pour la petite anecdote. Et voilà, c'est très naturel, c'est très touristique. Il y a beaucoup de choses à voir, des cascades d'eau, on a eu la chance d'y aller. Et on va continuer un petit peu à voir s'il y a des artisans locaux qu'on peut rencontrer, interviewer, pour tout mettre sur les réseaux pour faire un petit peu l'aventure. Là,
justement, l'aventure avec l'aspect sportif, ça dit quoi?
L'aspect sportif, donc on continue les entraînements. Là où on va, on toque un petit peu dans les portes. Bonjour, on va faire du jiu-jitsu. Donc voilà, pour rappeler, je fais du jiu-jitsu brésilien. Je fais un peu de la famille lors de mon road trip.
Ouais.
Du coup, ta présence s'est bien passée. Ici, il y a une petite académie qui m'ont ouvert leurs portes. Je suis entraîné, je suis une petite prépa physique. On continue. Et voilà, quoi.
Mourad, peut-être.
Moi, j'avais juste une petite question, puisque ça fait un moment qu'on le reçoit, etc.
Bien sûr.
Que il sent qu'il a progressé depuis qu'il est au Brésil, au niveau du jiu-jitsu brésilien.
Depuis qu'il
est là-bas.
Alors, la réponse est très simple. Qu'on soit en France ou au Brésil ou ailleurs, plus on s'entraîne et plus on progresse. C'est-à-dire, plus on s'entraîne intelligemment, on se remet en question, on essaie de comprendre. C'est sûr qu'on progresse. Après, la question, c'est que.
Abdel, au foot, il s'est entraîné 10 ans, il sait toujours pas faire un contrôle.
C'est faux.
Mais non. Il excelle quand même, hein.
Ouais, après le but c'est vraiment comme tu as dit, c'est d'essayer d'exceller, de s'entraîner avec les meilleurs, d'avoir la chance d'être un peu leur sparring.
C'est ça.
Et honnêtement, ouais, on progresse, je vois, j'apprends des choses que je ne savais pas en France. Et après il y a des mecs, des black belts, des ceintures, ils ont 50, 60 ans et ils continuent d'apprendre. De toute façon, ça y est, on a pu le voir dans les études avant que sur YouTube.
Il faut.
Donc voilà, on interviewait un sportif, un maître sportif qui dit que. On peut toujours apprendre ça avec on voit des détails
Et on peut suivre cela directement sur les réseaux sociaux et notamment sur votre votre fanpage YouTube, c'est bien ça, hein, Bilal?
C'est bien ça, donc j'ai une chaîne YouTube ça s'appelle Road to Biladventure. Sinon,
c'est ça.
Je suis sur Instagram, Facebook et Snapchat avec Biladventure, donc c'est B-I-L-A-D-V-E-N-T-U-R.
On vous retrouvera ce jeudi. En tout cas, vous avez bien le bonjour de toute la rédaction de Beurre FM, sans oublier l'équipe de Tam Sport, Nawef, qui nous a rendu visite, et sans oublier Ryan. Voilà. Un grand merci.
Un grand combattant qui arrive bientôt. Voilà.
Ah ben voilà. Ah ben on l'espère. Ah ben on verra. Merci. Merci Bilal. Qu'on pourra retrouver ce jeudi. Allez, place au premier sujet de cette émission après Bilal Aventure.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Eh oui, on m'en regarde comme ça, mais on va parler de cet Olympico. Eh oui, Lyon face à Marseille. On a vu hier soir une sombre page de l'histoire du football français. Comment en est-on arrivé là? Eh oui, Mourad.
Comment on en est arrivé là?
Alors,
en fait, avant de parler de ce qui se passait, de ce qui s'est passé hier entre Dimitri Payet et la bouteille d'eau cristalline, j'aimerais parler de la violence dans les stades en général.
Oui. Je pense que c'est le sujet. Tu peux en parler.
Non, mais bien sûr. Je pense qu'il y a eu un laxisme déjà au niveau des sanctions, d'accord. Que ce soit auprès des individus ou auprès des clubs. Il y a aussi un laxisme au niveau des mesures qui ont été prises. Par exemple, le fait d'avoir enlevé les filets, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, début des années 2000, il y avait des grands filets qui protégeaient les tireurs de corner. Donc ça, un laxisme au niveau des mesures, ça aussi, ça a été pris en compte. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué hier, le manque de communication entre les différentes instances, entre les clubs, entre la justice, entre la police. On a l'impression que ils mettent trop de temps à prendre des mesures. Exactement. Personne n'a envie de porter le chapeau. Ils mettent trop de temps à prendre des mesures. Et donc, du coup, ça impacte, ça dégénère et ça impacte, en fait, la mauvaise gestion de ce type de match. Il y a aussi le renforcement des forces de l'ordre.
Oui.
Quand tu sais que tu vas avoir un gros derby comme Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, renforce tes effectifs de police, justement pour barricader.
Oui.
Et on a l'impression qu'hier, voilà, même si pour moi, indépendamment du match d'hier, pour moi, c'est un cas isolé, contrairement à la bien-pensance médiatique où tout le monde accuse Jean-Michel Aulas, on a l'impression que tout le monde veut régler ses comptes avec Jean-Michel Aulas.
Oui.
Pour moi, hier, c'était un cas isolé, mais en général, pour la violence dans les stades, il faut prendre ses mesures. Éventuellement, les bouteilles d'eau enlever les bouchons.
Ouais.
Ça se fait en Angleterre, ça se fait dans d'autres pays, même
mais
en
ça
France.
Ça se fait aussi en France.
En France, ça se fait. Ouais. Hier, il y a des bouteilles d'eau cristalline qui sont arrivées. Même si on peut plus enlever les bouchons des petites bouteilles de cristalline.
Ouais.
Donc voilà, donc des mesures plus drastiques, mettre en place des gobelets, je sais pas, éco-responsables, peu importe. Mais en tout cas, les mesures, elles sont simples et elles peuvent changer. Voilà.
Alors, Hervé, on écoute avec Abdel.
Bilal, ce qui me dérange dans
alors,
tout
c'est
ça,
quoi
c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. C'était déjà arrivé lors de Montpellier-Marseille.
Aussi.
Il y avait déjà eu des dérapages lors de Nice-Marseille, lors de OM-PSG. Il y avait également eu Lens-Lille, où il y avait carrément eu des affrontements entre les supporters lillois et les supporters lensois. Enfin, comme le disait justement Mourad, il y a une forme de laxisme dans notre pays. Que ce soit au niveau des autorités,
les instances plutôt du football français,
politique, sportive et même pénale. J'ai l'impression qu'on est systématiquement dans la demi-mesure, qu'on est systématiquement à vouloir laisser des deuxièmes chances. On est toujours dans non, mais la prochaine fois ça sera différent. La prochaine fois ça sera différent. Tant qu'il y aura pas des réponses fortes, tant qu'il y aura pas des sanctions fortes, tant qu'on va pas taper du poing sur la table, je pense que rien ne va changer. En réalité, ce qu'on est en train de faire, le débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, on l'aura probablement dans un mois, on l'aura probablement dans trois mois. Et c'est peut-être ça qui est le plus triste dans l'histoire.
Ouais, Abdel.
Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit juste avant. Après, au final, quand on voit toutes les personnes qui se sont plaint parce qu'il y a eu le Covid, qu'il n'y avait pas de supporters dans les stades, et ben il y a un individu qui arrive à faire arrêter un match complet avec ce jet de bouteille. Et finalement, pour la première fois, on parlait de sanctions qui n'étaient pas mises en place. Ils ont réussi, avec tous les systèmes de sécurité qu'ils ont, à aller le prendre et le mettre entre guillemets en garde à vue. Donc c'est la première fois déjà que ça se passe. On va dire que c'est un petit pas. Après, concernant Aulas, comme t'as dit Mourad, c'est vrai que il y en a qui ont des problèmes avec lui. Donc au final, au moindre incident au sein de son club, et ben c'est le moment pour tirer sur la sonnette d'alarme. Mais après voilà, ça fait beaucoup d'incidents au bout de 12-13 journées. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Et qu'à un moment donné, il faudra peut-être changer de point de vue, et notamment enlever des points pour que l'équipe que les gens soutiennent soit vraiment pénalisée et que ça leur prive de certaines coupes ou certaines accès en Ligue des Champions ou autre. Et ce sera bien
retrait de points.
Je suis pas d'accord avec le retrait de points. Je pense que le huis clos est plus impactant que le retrait de points. Un hooligan ou un perturbateur, que son équipe ait 12 ou 48 points, il se comportera de la même façon. Par contre, s'il y a un huis clos, tu l'empêches.
Vu comme ça, Mourad. Yacine, Hervé et Boula.
Je vous écoute parler, j'ai l'impression que c'est la fin du monde.
Ouais, c'est pas la fin du monde.
C'est un acte dans lequel ça se passe, le football, on peut pas contrôler. Hier, il y avait 56 000 supporters dans le stade. Donc, il y avait une personne, il a pris la bouteille et l'a jetée. C'est un acte condamnable. Ah, moi, je vais vous retourner à la situation autrement, complètement.
Ouais.
Combien d'actes de racisme depuis de longues années dans le football?
Ouais.
Il
n'y
a jamais eu le match qui a été arrêté. Tout de suite, on fait tout pour.
En France.
Tout en France, en Italie.
Non, en France, on parle de la France.
Je ne parle pas de l'Uruguay. Donc aujourd'hui, c'est juste de la bureaucratie.
La bureaucratie.
Les responsables, ce sont des bureaucrates. Ouais. La personne, elle a reçu la bouteille.
Et elle avait
besoin de soins. Ouais. Mais pourquoi on ne repart pas sur le match? Pourquoi le match ne repart pas?
Mais parce
pour quelle raison?
La personne n'est peut-être choquée, Yacine.
Alors, pour prendre
la personne de Dimitri Payet.
En Angleterre,
c'est pas...
L'Angleterre, c'est le pays le plus proche de la France.
Ouais. La Belgique.
J'ai vu juste de traverser. On parle footballistiquement.
Il y a le Luxembourg,
il y a l'Allemagne.
Ouais, Yacine, il connaît bien.
Les hooligans, comment ils ont fait les Anglais pour les...
Ouais, les bannières.
En Angleterre, il y a ni filet... Mais absolument rien du tout.
Ils ont la mentalité aussi. Ouais.
Ils augmentent les prix des billets, mais moi j'ai ma théorie là-dessus, Bilal.
Exactement.
Non, mais si tu augmentes les billets en France, c'est pas un pays de football au même titre que l'Angleterre. Les gens ne viennent
plus. Non,
plus.
Attention. Et les sanctions. Ce jeune homme-là ou la personne qui a jeté la bouteille sur, il faut l'interdire du stade définitivement. Et tu en fais l'exemple. Et tu vas voir si tu vas vivre les mêmes situations. Mais si tu tournes. Ça va faire un débat politique, ça va faire parler pendant 15 jours, ça n'avancera absolument à rien du tout. Parce que ça ne les intéresse pas d'avancer.
Boula, on écoute Boula.
Hier, ce qu'on vraiment tapé du poing sur la table, qu'on vraiment réagi, c'est les joueurs.
Ouais.
Ils ont plus voulu rentrer sur le terrain.
Quels joueurs?
Les joueurs de joueurs.
Alors, l'Olympique de Marseille.
Ah bah, les joueurs de Marseille, c'est des employés.
Non, 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 il n'y a pas d'employés.
Ils auraient dû rester dans leur coin.
Non, non, mais comment est-ce que tu dis? Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Attends, Mourad.
S'il te plaît, tu peux me laisser parler.
Vas-y, vas-y. Tu dis des énormes.
Allez, vas-y.
Alors, vas-y. C'est toi qui l'ai dit.
Allez, vas-y.
Vas-y, je t'écoute.
Vas-y, vas-y, Boula. On écoute Boula. On écoute Boula.
Parce que n'essaye pas de chercher d'avoir le pouvoir sur l'autre.
Mais non, il n'y a pas de. Mais bien sûr.
Je réponds là. Il y a un truc qu'il faut savoir. Il faut savoir, comme il dit Hervé, la sanction, c'est qui les donne? C'est les instances du football français. Les instances du football français sont incapables de les donner. Ils sont incapables de prendre une décision. Aujourd'hui, la décision, qui c'est qui l'a pris la sanction? C'est les joueurs.
Ouais.
Ils ont dit, on joue pas.
Ouais.
On en a marre de prendre des bouteilles dans la gueule, on en a marre ceci, on en a marre cela. Ça veut dire que les instances du football français, ils sont pas capables de réagir et de sanctionner. Ils sont incapables de sélectionner. Et la bouteille d'eau.
Ouais.
La bouteille d'eau. Déjà, c'est pas normal qu'elle est dans les tribunes. Moi, j'étais au Parc des Princes.
Ouais.
Comment que les feux d'artifice, ouais, ils sont rentrés dans les tribunes?
Il y a quelques années,
un quart d'heure avant le match,
ouais.
Comment que ça se fait? Ça, c'est un problème de sécurité.
Ouais.
Comment que ça se fait que la fouille a passé à l'as?
Ouais.
Alors pour moi, la fouille,
ouais,
c'est fait exprès. Tous ces petits trucs-là, où il y a les bouteilles qui rentrent, tout ça, ça, c'est un conflit pour chauffer cette société.
C'était propos.
Il y a quelques années, Anthony Lopez ramassait des bouteilles de Heineken dans la surface de réparation. Là,
ouais,
c'était l'enfer du Vélodrome.
Ouais.
Et quand ça se passe au Groupama Stadium,
ouais,
eh ben là, c'est Jean-Michel Aulas, la mauvaise gestion.
Mourad.
Bien sûr,
on va revenir.
Mais là, c'est pas ce qui s'est passé à Nice. À Nice, c'était pire. Il y a eu un envahissement de terrain, il y a eu un salut nazi, il y a eu des agressions de supporters envers les joueurs. C'est
pas du tout la même chose. On revient à ses premiers avec les éditrices.
Les joueurs et les auditeurs la
de Beurre FM. Merci l'équipe de Time Sport. Vous restez avec nous, Alain Giresse arrive à grands pas. Merci, on y va.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Donc ce soir sur l'antenne de Beurre FM avec Yacine, Hervé qui vient d'arriver. On ne sait pas, il était sur l'ISS. Hein, ce soir, on t'a perdu Hervé. Hein, on t'a perdu Hervé Dibi. Mourad est avec nous, avec son ami Boula, sans oublier.
Bien sûr, c'est mon ami
Abdelou. Boula. Eh oui, Mourad.
C'est un petit clin d'œil. Déstabilisé,
ah oui, ah ben, elle est très très belle cette chemise.
Très belle chemise.
Ouais, en mode Alger, voilà.
Alger des années 70, c'est vrai. C'est vrai, Boula.
Boula, il ne confirme pas Boula. Il est occupé, Boula.
C'est Yanis qui me dit, c'est les chemises à l'Algerino, c'est pour ça. Et voilà,
lui,
bon, on n'a pas compris la blague, mais bon.
Sans compte, on va lui régler après.
On ne dit plus des chemises à fleurs.
Alors, justement, messieurs, non, on va s'attarder sur l'invité de ce soir. Allez, c'est parti.
Time Sport, The Special One.
Eh oui, un vrai spécial, un invité assez spécial ce soir sur l'antenne de Beurre FM pour la première fois avec nous, Monsieur Giresse. Alain, comment allez-vous?
Bonsoir.
Vous allez bien?
Bah écoutez, oui, ça va. Je vais bien, merci.
Après le match d'hier, justement, on le rappelle, Monsieur Giresse, footballeur international français, reconverti en entraîneur, passé par des clubs tels que les Girondins de Bordeaux, où il a fait vraiment la gloire de ce club, sans oublier aussi l'Olympique de Marseille, par exemple, dans les années fin des années 70 et aussi années 80. Eh oui, le carré magique, c'était une génération assez époustouflante. Un plaisir de vous entendre ce soir sur l'antenne de Beurre FM avec toute l'équipe de Time Sport. Monsieur Giresse, on a abordé le cas de l'Olympico hier soir en Ligue 1 Uber Eats. On aimerait avoir un peu votre ressenti concernant cette fameuse rencontre, concernant un peu la génération que vous avez tant connue du football français à l'échelle, voilà, de championnat anciennement dit de première division et celui d'aujourd'hui, la fameuse D1 qu'il a connue où il a mis pas mal de buts. Monsieur Giresse, on vous écoute.
Oui, mais d'abord, l'actualité, effectivement, le match hier soir, c'était le Olympico qui n'a pas eu lieu encore. Un triste moment qu'on en a vécu, voilà, des supporters. Enfin, non, je ne peux pas les qualifier de supporters, des gens, je ne sais pas quelle idée ils peuvent avoir dans la tête, à quoi ils peuvent penser pour se permettre de faire des gestes comme ça, voilà. C'est regrettable et je ne sais pas quand ça va se terminer. Il va falloir prendre des mesures strictes pour voilà, ça fait trop dans ce premier quart de saison.
Abdel, une première réaction avec Monsieur Giresse.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Justement, vous avez, enfin, pour parler d'un autre sujet, vous avez été longuement sélectionneur dans différents pays en Afrique, sans jamais revenir, par exemple,
passer par la Tunisie aussi.
En Europe. Qu'est-ce qui vous a animé dans toutes ces expériences de rester justement sur ce continent, être sélectionneur?
Mais au début, je ne pensais pas, évidemment. Au début, j'ai voulu découvrir un autre football, un autre continent, vous l'avez dit, voir un petit peu ce que ça, le football était, comment ça se présentait. Voilà, j'ai commencé par le Gabon, et puis j'ai pris goût, parce que je me suis investi à fond dans ces pays-là, à mettre en place, à organiser, à essayer de structurer une organisation pour les équipes dans leur fonctionnement, entre les matchs de préparation, les compétitions officielles, les conditions aussi pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Voilà, et j'ai un peu reproduit ça dans les différents pays, en fonction évidemment du pays où j'étais. C'est évident que les pays ne sont pas les mêmes en fonction de leurs possibilités d'abord sportives et des moyens qu'ils ont pour faire fonctionner leur football.
Et justement, on est à l'approche d'une grande compétition qui est la Coupe d'Afrique. Il y a pas mal de d'équipes qui font de belles affaires depuis un moment.
Ouais.
Quels sont pour vous les ingrédients pour remporter une CAN?
Une grande compétition. Alors, d'abord, il y a quand même un problème qui va se poser, qui aura, pas forcément pour toutes les équipes, mais pour certaines, c'est la période. La période, c'est-à-dire en plein championnat pour maintenant la grande majorité des joueurs qui sont des joueurs internationaux africains, qui jouent maintenant dans les grands clubs en Europe, et qui va poser problème, parce que c'est sûr que les joueurs vont être tiraillés entre le club et l'équipe nationale, je peux vous dire, pour l'avoir vécu. Et ça, c'est compliqué pour eux. Donc, il ne faut pas que ça... Pour cette CAN, eh bien, comme toute grande compétition, ça commence par une bonne préparation, que les équipes sachent bien se préparer dans les meilleures conditions, que tout le monde, tout soit réuni, qu'il n'y ait plus de problèmes, quelquefois, qui interviennent pendant ces préparations. Donc, c'est-à-dire qu'il faut travailler en amont pour que, justement, l'équipe se prépare dans les meilleures conditions. Et après, évidemment... savoir se comporter, c'est-à-dire sur une compétition qui maintenant, vu le nombre d'équipes, est une compétition très très longue, et il faut avoir la capacité de pouvoir tenir en étant préparé pour cela.
Oui. Mouad, Abdel et Hervé, on vous écoute. Monsieur Ricassine.
Bonsoir. Réaction. Bonsoir Alain, j'avais une question à vous poser. On a souvent pointé du doigt le manque de professionnalisation du football africain. On a souvent tensé le football africain, disons que c'était un football un peu amateur. Pensez-vous que ce soit toujours le cas? Pensez-vous que le football africain est toujours en retard sur son homologue européen?
Alors, là, évidemment, on s'éloigne des équipes nationales, parce qu'évidemment, comme je le disais, les équipes nationales, maintenant, sont constituées que des joueurs professionnels. Si on parle par rapport au football local, dans tous les pays, oui. Mais alors après, il faut dissocier certains pays, l'Afrique du Nord, par exemple, notamment, qui évidemment, en termes de football local, d'équipe de club, évidemment, est quasiment proche de l'Europe, sinon à égalité. Voilà, avec des championnats qui sont en place et qui se déroulent. Vous avez encore, dans certains pays où j'étais, où les championnats, ça fait 2 ans qu'ils ne sont... Il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat depuis 2 ans dans ces pays-là. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des problèmes d'organisation, de mise en place, de financement des clubs. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Les joueurs eux-mêmes n'ont pas encore des contrats bien en bonne et due forme pour pouvoir justement s'engager avec les clubs. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ce qui est regrettable, si vous voulez, ce sont des pays qui regorgent de talents, où le football est roi, et que la jeunesse de tous ces pays ne demande qu'à ça. Voilà. Et il faut y arriver. Il faut arriver à ce qu'il y ait un peu plus de rigueur dans ces pays-là pour encore permettre à ce football de développer. C'est pas les joueurs qui manquent, c'est pas les talents qui manquent. C'est simplement de les mettre dans les meilleures conditions, de les cadrer dans ce qui fait. Et tout soit bien structuré pour pouvoir un peu faire en sorte que ça se développe.
Mmh. Alors, Yacine et Mourad, on vous écoute, messieurs, avec Alain Giresse, notre invité ce soir sur Beurre FM.
Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Alors moi, je vais revenir tout à l'heure à la question sur les joueurs africains quand ils partent en sélection. Pourquoi, quand il s'agit d'un Brésilien, d'un Argentin ou d'un Européen, ça, en France, ça ne pose pas de problème, mais dès que c'est un joueur africain, et ça, c'est tout un, on fait tout un tralala.
Enfin, je suis moins, Je suis moins convaincu que vous, parce que quand vous avez maintenant les Sud-Américains et on a les très grands joueurs comme Messi, Neymar,
ouais,
quand ils reviennent, ça pose quand même un problème. Vous avez bien vu dernièrement,
ouais,
le problème qu'il y a pu avoir entre Leonardo et l'Argentine. Donc c'est pareil. En plus, ils ont.
Oui, mais je pense pas que Leonardo peut peser devant un joueur comme Messi.
Les trêves internationales sont plus longues aussi. Maintenant, on est sur des trois matchs, notamment en Afrique du Sud.
Quand Yacine te parle,
c'est beau là.
Je vais te donner un exemple. L'histoire de l'or. Ça veut dire qu'il a une pression de son club. Il a une pression de son club. Il a une pression de son club pour lui faire un nouveau contrat et pour lui dire soit tu décides de rester à Nice, de venir à Nice. Nous, on te fait un super contrat et d'annuler la Coupe d'Afrique.
Et de ne pas participer.
C'est la condition de
Je trouve ça,
pour le respect de l'Afrique, je trouve ça une honte de la part du directeur sportif et du président, parce que ça vous met aussi quand même les entraîneurs. Ça vous met quand même dans l'embarras, les entraîneurs. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. Ça veut dire que nous, ce qui se passe en Afrique, en tout cas, moi, je t'ai connu en tant que joueur exceptionnel.
Magistral.
Maintenant, en tant que footballeur, pareil, t'as connu le Claude Bess, c'était une autre mentalité qu'aujourd'hui, quand même.
Non, mais vous avez raison. Non, attendez, vous avez raison. Je sais que c'est un gros problème qui se pose. Vous l'avez, et vous avez un autre aspect, une autre notion qui rentre en ligne de compte, c'est que ce qui n'est pas le cas pour les Sud-Américains, c'est que les joueurs d'origine africaine qui sont nés en Europe ont à un moment donné un cas de conscience. Ou jouer avec le pays où ils sont nés et qu'ils ont la nationalité, ou pouvoir jouer dans le pays de leur origine, parce que la possibilité existe. Et c'est pas évident pour eux, parce que l'éducation, ils se sont faites en Europe, ils ont été éduqués à l'école, l'éducation sportive, etc. Et après, ils ont cette possibilité, de malgré tout, de jouer ou avec la France, l'Espagne, l'Italie, ou l'Allemagne, peu importe les pays en Europe, ou de jouer dans le pays d'origine. Et ça, c'est des situations qui sont pas évidentes. J'étais entraîneur donc sur le continent.
Oui.
J'ai rencontré des joueurs qui d'origine, je leur ai demandé de venir jouer. Donc ça prenait un petit peu de temps parce que pour leur expliquer.
Ils attendent.
Deux, bien sûr.
Ils sont dans l'attente de la convocation en A et donc ils temporisent jusqu'à choisir leur sélection d'origine comme un plan B.
J'ai pris un joueur, c'était au Mali.
Oui.
Il m'a dit, ok coach, je vais venir jouer avec la sélection nationale. Quand il est arrivé au Mali pour la première convocation, c'était la première fois de sa vie qu'il venait au Mali. Vous imaginez un petit peu le choc culturel que ça peut représenter. Donc il a fallu, moi-même, je l'ai pris en charge à l'aéroport pour lui dire, écoute, voilà, tu vois, la vie ici, elle est comme ça et comme ça. C'est moi qui lui décrivais un petit peu le pays. Que ses parents, d'où ses parents étaient origine. Donc, c'est pas évident comme cas de figure.
Monsieur Giresse a raison.
Bien sûr, il a raison.
Andy Delors a joué avec la sélection algérienne sans avoir mis les pieds en Algérie, par exemple.
Ouais.
Oui,
c'est incroyable. Mourad, il y a une chose qui est très importante.
Si vous voulez finir.
Bien sûr, allez-y, monsieur Giresse.
Je m'excuse, sur le cas Delors, à partir du moment où on prend la décision, comme le joueur, de faire le choix de la sélection algérienne, puisqu'il en avait la possibilité. Et après, eh bien, on assume et on continue. On fait pas tout d'un coup, je viens pas, on fait une espèce, je viens quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Non, là, ça, on peut pas. C'est pour ça, à chaque fois que je prenais sélection, je leur disais à chaque joueur, que ce soit n'importe quelle sélection que j'ai eue, la sélection, vous devez, quand on vous sollicite, vous devez avoir également envie.
Ouais.
Si vous venez forcé, contraint, restez chez vous.
Sache que, Surtout dans la formation, quand les jeunes ils sont en formation, on leur dit non, faut pas aller en Afrique, faut rester ici pour jouer en équipe. Si, c'est vrai.
Ouais.
T'inquiète pas, Alain le sait très bien.
Ok,
Alain le sait très bien.
Sûr, mais un joueur, bien sûr. Attendez, vous pouvez pas dire un garçon qui est né en Europe,
ouais,
que tout d'un coup il a connu tout, il a fait sa scolarité, son éducation, qui a la nationalité du pays où il est né. Tout d'un coup, de lui dire, ah oui, mais non, toi, c'est pas avec cette équipe nationale que tu dois jouer, c'est avec l'autre équipe nationale de pays de ton origine, de ta famille. Non.
Ouais, mais c'est très personnel Écoute-moi, je suis algérien.
Ouais.
Sache que quand tu représentes l'équipe de France, aujourd'hui, tu regardes, ils ont fait un zizou.
Tu prends Benarbia, il a attendu pour aller en équipe de France, ils l'ont jamais pris. Aujourd'hui, tu peux pas prendre 5 Algériens dans l'équipe de France. Mais tu sais très bien que ça se ferait pas.
Mais pourquoi ça, tu dis ça
En connaissance de Alain, tu le sais très bien.
Mais
je vais dire à René, tu peux pas faire une équipe de rebeux quand même.
Non, quand même. Allez-y,
mais moi,
Alain.
Moi, j'étais au Mali. Kanté, Sissoko.
Toi, tu veux faire un croissant magique, tu veux pas faire un carré magique.
J'avais une forte Sidi B, j'avais une forte représentation de joueurs d'origine malienne. Quand j'étais au Mali, j'ai dit ah ben oui, moi je serais bien content qu'ils jouent maintenant, moi qui suis entraîneur du Mali, avec l'équipe nationale du Mali. Et mais ils étaient partis sur la France. Ouais, de la même façon, c'est vrai. Regardez, vous parlez, mais Zidane, Benzema. Ben Arfa, lui, c'est Tunisie, mais ce sont des garçons qui sont d'origine Fekir.
Alors.
Fekir, ça en fait des joueurs qui sont d'origine algérienne et qui ont joué.
C'est le meilleur joueur espagnol d'Espagne, et aujourd'hui, il n'a aucune convocation en France.
Alors.
Ah, mais ça, non.
Il est champion du monde.
On va parler d'autre chose avant de terminer l'interview. Magnifique interview.
Je vais te dire juste un dernier truc. Sache que la Coupe d'Afrique, elle a été. Il y avait deux entraîneurs. Tu avais Ben Madi d'un côté, pure formation française. Il y avait Ben Madi et Aliou de l'autre côté. Ça, c'est vraiment le travail de la France.
Pour ton plus grand plaisir.
Voilà.
Il est heureux quand il le dit, Alain Giresse. Oui, Yassine, on va
terminer. Mon expertise est aujourd'hui, je l'ai mise au service du continent africain et j'en suis très fier.
Mais bien sûr.
Merci, Alain. Ouais, votre expertise, Alain, vous l'avez mise, mais il faut savoir que l'Afrique, c'est le continent qui recycle le plus d'entraîneurs français. Ouais. Et souvent, ils n'apportent absolument rien du tout. Et tout à l'heure, Boula, il a si bien dit. Les grandes nations africaines aujourd'hui du football sont entraînées par des autochtones. Il me parle de Belmadi qui est formé à la française. Belmadi, il a joué en France, mais son diplôme d'entraîneur, il les a fait en Asie. Donc, il n'a rien à voir avec
ça. Non,
alors, Alain Giresse, on va terminer rapidement avec Alain Giresse. Avant la pause, rapide. On vous écoute, Alain. On vous écoute.
Oh non, je disais. Oh non, c'est juste une précision que non, les diplômes, il les a passés. Il les a pas en France. C'est en France et l'UCC également.
Alors, Belmadi a fait ses diplômes en Asie. Hein. Et là, il a l'équivalent de l'UFA Pro. Ouais. C'est l'Asian Pro. Hein.
C'est toi qui le dis.
Il a commencé. C'est moi qui le dis.
Bien sûr.
Et quand je dis non information, c'est que je vérifie.
Bien sûr.
Il a toute la culture, la formation française du PSG. Il a toute la formation. Tout ce qu'il a appris, c'est en France en tant que joueur.
Il travaille pour la formation française. Alors, je le qualifie.
Donc, c'est complètement différent.
Je le qualifierais même, Belmadi, de Deschamps algérien.
Ah oui, Deschamps algérien, selon. Voilà.
De belles comparaisons.
Ah ben ça, c'est sûr. En tout cas.
Moi, je ne le comparais pas à Deschamps.
Il n'y a pas de problème, Yassine.
Je trouve que Belmadi est supérieur à Deschamps.
Monsieur Giresse, un grand merci d'avoir été avec nous. Moi, je vais terminer juste sur cette belle parole. Diego Maradona, vous kiffez. Et oui, Alain Giresse, la classe, il disait de vous. Et il voulait même à tout prix vous rencontrer. Il vous a rencontré, Diego?
Mais il a gagné contre Maradona.
J'ai eu cette chance. C'était après le Coupe de 82 et avec ma plus grande surprise, il souhaitait, pour avoir vu la Coupe de 82, prendre une photo. Et j'ai avec lui, non seulement j'ai pris la photo avec lui avant le match, et à la fin du match, eh bien, j'ai recueilli son maillot. Et comme j'ai lavé son maillot, je l'ai suspendu, je l'ai bien mis en relief chez moi. Et quand il est décédé, je me suis dit, mais la dernière fois que quelqu'un a porté ce maillot, c'était Diego. C'était un moment fort.
Incroyable. Émouvant.
Moi, j'avais juste une dernière question. Votre favori pour la CAN, très rapidement.
Ah, les favoris pour la CAN.
Le favori.
Ah, le favori pour M. Giresse.
Le champion est toujours favori, et qui plus est, avec des performances dans l'après-CAN 2019 qui fait qu'ils sont encore favoris, sauf que maintenant, ils vont être l'équipe à battre, et ils vont être, bien sûr, évidemment, à chaque fois l'équipe qu'on va vouloir à tout prix éliminer.
Merci Monsieur Giresse d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Restez avec nous pour la dernière partie de cette émission.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Allez, on va s'attarder sur les deux derniers sujets de cette émission avec toute l'équipe de Time Sport. C'est parti.
Time Sport. La troisième mi-temps.
La troisième mi-tems.
Eh oui, Boula aimerait le voir venir et défiler, pourquoi pas, sur les Champs-Élysées en compagnie d'un certain Abdel. Zinedine Zidane, le cadeau fou, peut-être, Yacine, pour le Paris Saint-Germain, ses supporters, pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi pas.
Il vous a appelé?
Ah ben non. Tu nous as dit dernièrement, tu nous as dit Yacine, tu nous as dit.
J'ai jamais dit qu'il viendrait au PSG.
Qu'il irait peut-être
si
au Qatar.
Tu es un lecteur assidu de Shoot Africa.
Mais bien sûr. Ah ben je le suis.
Et tu vas comprendre pourquoi Zidane ne viendrait jamais au PSG.
Oui.
Tout simplement.
Et pourquoi?
Comme Bounjah n'irait pas à Barcelone.
Ah ben si. Mourad Amoré, Hervé Amoré le voir à Barcelone.
Apparemment,
Hervé vient de démentir.
Apparemment, il est dans le Corsican Ferry, Oran, Barcelone.
Mourad,
avec une Audi A3, année 2012.
Mais arrête un peu, Mourad.
Et son sac de sport.
Mais tu peux pas dire ça, Abdel.
Arrêtez de faire croire aux Parisiens que Zidane va venir à Paris. Zidane, il a trois amours dans son cœur. Il a le Real de Madrid.
Ouais, Madrid.
Il a la Juventus de Turin.
Ouais, il est bien connu.
Il a, comme il vient de le préciser, Véronique.
Mais non, mais non, Yacine.
Et après, sur le gâteau, l'équipe de France. Ouais. Apparemment, c'est le successeur désigné de Didier Deschamps.
Ah ben ça, c'est toi qui le dis.
Mais qu'est-ce qu'il va faire au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'il va faire?
Grande équipe, grand club, le Paris Saint-Germain.
Est-ce que tu penses que Zidane, c'est quelqu'un à qui on peut donner des ordres?
Non,
mais
c'est
oui,
on peut lui donner.
Quand tu arrives dans un club qui est géré par 150 personnes, mais comment veux-tu qu'il travaille? Tu penses que Zidane va travailler avec Leonardo? Il va accepter qu'un gars comme Leonardo lui donne des ordres?
L'arrivée de Zidane signifierait le départ de Leonardo.
De tout le monde.
Direct.
De tout le monde.
Non, mais Nasser Khalifi, c'est le président symbolique. Il fait l'intermédiaire.
De
tout le monde. De qui?
Donc, il faut qu'on arrête de vendre du
rêve. Abdel, vas-y, on vend le rêve. Lui, il n'en veut pas.
Il ne viendra pas.
Le principal souci, c'est
vrai. Yacine.
Au final, au PSG, on peut y croire s'il n'y avait pas toute cette instance en haut qui laissait pas laisser travailler ses entraîneurs. La dernière déclaration de Pochettino en date qui dit que on est là pour gagner, on n'est pas là pour construire. Et ben il faut on veut te dire qu'il faut que tu aies les épaules pour gagner, mais en même temps
les stades au Qatar, ils sont tous construits,
Non mais attends,
ils sont presque finis pour la Coupe du Monde 2022.
Ouais. On te dit qu'il faut les épaules pour gagner, mais au final on essaye un peu d'utiliser comme un pantin. Donc c'est 50-50 au PSG. Après, comme tu as dit, c'est dur de le voir. Ça serait dur de le voir arriver sur une aussi courte période, parce que au final l'équipe
même
de France
pas, même
dans
si
un
c'est
an,
une immense période, c'est à Marseille, il est né dans les quartiers nord de Marseille,
ouais, mais ça pour moi,
c'est et la Marseille ouais. dans les veines,
moi,
ça compte énormément pour lui,
l'argent, il n'en a pas besoin, l'argent il n'en a pas besoin, mais s'il il peut avoir une opportunité solide de venir.
Il est taillé pour entraîner le Real de Madrid.
Marseille, ça serait pas pris en compte. Après, pour moi, le fait qu'il veuille l'équipe de France après un long projet au Real Madrid et de se dire j'ai eu une longévité dans un club, je vais aller dans un pays, l'opportunité qui arrive dans maintenant un an, je pense que potentiellement ça joue. Après, voilà, il est ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde. On disait même que le Qatar voudrait le mettre limite entraîneur. Voilà,
ils ont essayé.
Mais c'est un Zidane.
Il n'y a même pas 10 jours, ça s'est discuté. Ouais. Oui, ça a été remis à la table. Et pour le moment, l'argent, l'argent, il n'en a pas besoin.
Merci.
Moi, je vois plus Zidane comme quelqu'un de fidèle. Comme l'a dit Yacine, c'est quelqu'un dans l'amour qui m'a l'air quelqu'un d'être très fidèle. Je parle d'amour footballistique. Et aller au Paris Saint-Germain serait plus du rôle du mercenaire. Et je vois pas Zinedine Zidane aller au Paris Saint-Germain.
Et si je peux juste finir, je dirais
même qu'il est plus proche, même si ça ne se fera jamais, de rejoindre un Manchester United, parce qu'on sait ô combien Sir Alex Ferguson aime beaucoup Zinedine Zidane.
Bien sûr.
Il y a plus de probabilité qu'il rejoigne Manchester United que le Paris Saint-Germain. Par contre, ce qui ne se fera pas, pourquoi? Parce que déjà, en Angleterre, il y a la barrière de la langue, mais aussi parce que Zidane, et ça va être très compliqué de retrouver ça ailleurs, il était dans un environnement très confortable au Real Madrid. Il avait le soutien de Florentino Pérez.
Ouais.
Il a commencé très bas, il était entraîneur adjoint.
Ouais.
D'Ancelotti, il a commencé à la Castilla. Et je le vois mal, c'était son bébé, le Real Madrid. Et je le vois mal arriver... bousculer les hiérarchies. Donc, en tout cas, il y aurait beaucoup de mouvements si jamais il rejoindrait un autre club. Je vois plus dans le bassin méditerranéen que au Real
Madrid,
au PSG ou à Manchester City.
Intelligent.
Il est marseillais, Abdel.
Alors, il est marseillais, selon.
Il est marseillais. Alors, Abdel. Une fois au Real Madrid, que ce soit la Castilla ou là-bas, dire qu'il est mercenaire, il va pas se cantonner à juste Real Madrid et l'équipe de France.
Mais il est taillé pour le Real Madrid. Il était joueur. C'est un des joueurs emblématiques du Real Madrid.
Alors, c'est logique. On laisse terminer Abdel.
En tout cas, quand on parle de Real
Madrid. Laisse terminer Abdel, Boula. Tu réagis, laisse-le terminer.
Il a d'autres opportunités pour la suite. Il va pas se cantonner à faire Real Madrid, équipe de France, dans toute la suite de sa carrière. Pour moi, dire qu'il est.
Tu sais, on choisit des opportunités avec des principes. On choisit pas des opportunités aveuglément.
Il est mercenaire parce qu'il a fait.
Il a le choix du roi.
C'est compliqué.
Il a le choix du roi.
Il a le choix du roi.
Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait Real de Madrid.
Oui.
Il a gagné 3 Ligues des Champions. Je pense qu'il y aura pour le moment, il y aura un retour au Real de Madrid. Je pense que Zidane est assez intelligent de mettre un pied dans un club. S'il y a un bordel au niveau de la gestion, je pense que c'est quelqu'un qui sait où il va, où il sait ce qu'il fait.
Aussi.
Je pense qu'aujourd'hui, comme il dit, il y a 360 mecs aux commandes du club. Déjà, Guardiola, Nasser l'avait sollicité pour le récupérer. Il n'y a pas été par rapport à la gestion.
Il sait que c'est un bourbier.
Et voilà, il sait par rapport à la gestion. Ouais. Et je pense que Zidane, s'il va un truc, ça veut dire qu'il y a une autre façon de travailler et une autre philosophie.
Peut-être.
C'est-à-dire que tout le club, il est remis en question.
Ouais,
et
Manchester
United, je pense que Ferguson.
Ouais, tu es d'accord avec moi sur ça.
Accepterait moins un mec comme Zidane.
Alors.
Parce que Ferguson, il a un truc. Ouais. Il veut que lui existait à travers Manchester United, c'est ce qu'il a fait.
Hervé, on l'écoute. Hervé,
tu te souviens de la déclaration de Sir Alex Ferguson envers Zinedine Zidane en tant que joueur?
C'est pour ça qu'il a mis.
Moi, je pense que c'est plus la barrière de la langue.
Non. Ouais, je suis d'accord avec toi au niveau de la langue. Je suis d'accord. C'est peut-être la barrière.
C'est la seule barrière pour moi.
Mais je te le dis, pour moi, Manchester United. Monster United,
j'ai pas l'anglais. J'ai pas l'impression.
Alors, je sais pas. Mais une barrière est dans l'apprentissage de Zizou.
Il a dû dire si c'est vrai. Il a dit I think the group lives behind.
Hervé, on écoute Hervé, Yacine. On va revenir à toi, Yacine. Ne t'inquiète pas. Et il est là, Hervé. Il y a même Mustapha qui dit s'il te plaît. Tu dis à Yacine, je suis d'accord avec lui. Il écoute depuis Marseille, Mustapha. Mais qui laisse parler Hervé? Mais oui.
D'accord.
On a quand même. Ah ben voilà, Mustapha qui.
Moi j'aurais plus dit qu'il nous écoute depuis Blida.
Ah ben Blida. Ah mais laisse Blida tranquille. Boufadek aussi. Ils aiment beaucoup. Alain aussi.
Ah magnifique. Il y a des Mustapha aussi. Même à Istanbul.
Kaza aussi. Kaza, petit coucou à Kaza aussi. Allez, on écoute.
Bon
bien sûr, non, Braza bien sûr. Aussi.
Bah oui. Mes camarades autour de la table ont pratiquement tout dit. Je vois mal Zidane. Enfin, je sais pas d'ailleurs qui a sorti cet article.
Bon, alors maintenant, tu me dis, mais arrête, Fred, toi aussi.
Je sais pas si c'est ledisport.com.
Ah ben non. Ça part, tu peux pas. Abdel, c'est des propos.
C'est plus Pochettino qui est plus proche de quitter le Paris Saint-Germain que Zidane arrivé du côté
Je vois mal Zidane aller à Manchester United, dans le sens où c'est un club qui a pas vraiment d'idée directrice. On a l'impression que c'est un peu un navire à la dérive. Il y a un grand flou qui entoure ce club. Et je pense Zidane trop intelligent et trop lucide dans sa manière de choisir ses clubs pour aller à Manchester United. Et au Paris Saint-Germain, on sait tous qu'il aura une marge de manœuvre assez restreinte entre Leonardo, entre Nasser Al Khelaifi. On sait pertinemment qu'il ne pourra pas être le patron de cette équipe. Donc pour moi, je vois Zidane dans aucun de ces deux clubs. J'irais même jusqu'à dire que, vu le début de saison pour le moins laborieux que fait la Juventus, je pense qu'il y a plus de chances de le voir rejoindre la Juve, si patiente, à l'été prochain, que de rejoindre les deux clubs qu'on vient de citer.
Mais
pour le PSG.
Parce que s'il va à Paris, il va entraîner Messi. Donc il a fait une grande trahison à Ronaldo.
Abdel va te donner la réponse, peut-être.
Je pense qu'il va rester au chaud chez lui.
Je pense que, encore une fois, à Manchester United, il y a Varane et il y a Cristiano Ronaldo. Plus de probabilité de rejoindre Manchester United que le Paris Saint-Germain. Je l'exclus totalement, justement, du plan, en fait.
Alors, des clubs, Abdel. Il a joué dans ces clubs-là, il va aller dans des. C'est un très bon coach, il n'y a pas de souci, mais il est dans des environnements favorables, etc. À un moment donné, pour qu'on voit aussi que si t'es un grand coach, même si je ne remets pas en valeur ce qu'il a fait, il faut aller se confronter à des trucs où tu es un peu.
C'est ton raisonnement à toi, Abdel, son raisonnement à lui.
D'accord, non, mais pour moi, dans ma manière de voir les choses, même si lui, voilà, dans son expérience, etc., c'est Zidane, mais pour moi, pour voir comment tu es et dans des environnements où tu n'as pas l'habitude d'être,
Pour moi, c'est comme ça aussi qu'on peut jouer.
Et ce discours-là envers Laurent Blanc. Et ce discours-là envers Laurent Blanc. Pas envers Zinedine Zidane. Zidane n'a rien à prouver. Il n'a pas de challenge à relever.
C'est parce que Abdel,
c'est juste une question de logique.
Si moi, c'est mon avis de dire que Zidane, c'est comme ça, c'est comme ça.
Non, c'est incroyable.
Tu me demandes d'aller voir Laurent Blanc.
Bien sûr.
Tu parles de Zidane.
Laurent Blanc, il est au chômage depuis 10 ans. Vous n'avez jamais eu ce discours-là et vous prétendez que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Faites-le revenir au PSG.
Vous dites que Zidane, il aime bien aller dans les trucs où c'est favorable, etc. Potentiellement, ok. Il a fait des choses.
C'est pas question de favorable.
C'est ce qui
je te rassure, même à l'Olympique de Marseille, il ne viendra pas. Même à l'Olympique de Marseille.
Quand il a repris le Real, la saison passée. Alors. Il les a repris dans des conditions très difficiles.
On laisse terminer Abdel.
On parle de tous les clubs. Pourquoi il ne prendrait pas un jour l'Algérie?
Pourquoi pas Abdel? Vas-y.
Non, mais pour moi, le fait de dire à chaque fois il doit être dans un environnement plus ou moins où il a l'habitude de connaître.
Ah, écoute-le.
Et ça a été discuté
avec Laurent Blanc.
Écoute Abdel. Il n'a pas l'habitude, Abdel. Il n'a pas l'habitude. C'est vrai, Abdel.
Dans tous les clubs où il a joué, il a qu'à aller coacher à Cannes.
Abdel, je te pose une question.
Vas-y.
T'es entraîneur pro demain.
Ouais.
On propose deux projets.
L'entraîneur Abdel.
Hein. Ok, mais pro j'ai dit.
Ouais.
Donc on propose d'aller dans un club où tu ne pourras pas travailler à ta guise, où tu ne pourras pas recruter à ta guise. On propose d'aller dans un club où tu sais que dans un an et demi, tu peux sauter. Tu vas aller dans ce club, oui ou non?
C'est une question à laquelle c'est difficile de te répondre, mais pour moi, il y a un mec comme Zidane, c'est une personne qui a les qualités pour et surmonter les épreuves. Pour moi, c'est un challenge qui pourrait permettre de voir si c'est quelqu'un qui a les épaules dans
le environnement en fait.
Ou c'est pas forcément.
Il a rien à prouver en fait.
Mais rien à prouver. Pourquoi? Parce que c'est Zidane, parce que ça a été un gros joueur.
Ouais.
Mais non, mais on est content.
Mais ça n'a rien à voir avec ça, Abdel. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, tu réfléchis à côté.
Alors,
est-ce que je peux justement placer une?
Alors, vas-y. On va avoir le droit de réponse d'Abdel. Vas-y, Mourad.
Juste pas avoir
le droit de réponse. Bien sûr. Tu l'as.
Mais depuis tout à l'heure, tu t'exprimes.
Vas-y. Vas-y, Mourad.
Je vais pas dans le sens des Zizou. J'essaie juste de m'adapter, d'essayer de mettre dans ses chaussures. Faut s'adapter à la personnalité du personnage aussi.
On s'adapte.
S'adapter à sa carrière. Moi, je le vois même plus aux Girondins de Bordeaux qu'au Paris Saint-Germain. C'est pas une question de championnat de France.
Parce qu'il y a un historique.
Bien sûr.
Zinedine Zidane n'a jamais fait les choses au hasard. Il n'a jamais été attiré par l'argent. Il n'a jamais été attiré par des projets financiers. Il y a toujours une logique.
Là, on peut en parler.
Donc, soit ce sera la Juventus de Bordeaux, éventuellement la Juventus de Turin, mais le Paris Saint-Germain, c'est en inadéquation avec ses valeurs. Et ça, c'est mon postulat.
Quand tu parles de Bordeaux en tant qu'entraîneur,
on va revenir à toi, Abdel, pour
dis-moi, en tant qu'actionnaire ou en tant que président, mais pas entraîneur, je pense qu'il y a d'autres clubs dans le monde.
Si demain il a envie de repartir de zéro, et justement Abdel parlait de challenge. Si demain, dans le meilleur des mondes, il souhaitait relever un challenge,
pourquoi pas?
Ce serait celui des Girondins de Bordeaux, qui serait
selon toi
plus adéquat.
Abdel,
parce que peut-être que c'était pas le moment. Là, peut-être que Gérard Lopez, il aurait les arguments pour le convaincre.
Messieurs,
peut-être que sur le long terme,
merci Mourad.
Peut-être que sur le long terme, ça pourrait être intéressant.
Il y a Samir qui nous écoute et il nous dit c'est très intéressant ce soir la team Time Sport. Alors, on est avec toi, Abdel.
Ne joue pas pour Calimero, Abdel. C'est une question de logique. Un avis contraire, mais ne joue pas à la bien-pensance, Abdel, avec
nous. Tout à l'heure, j'ai l'impression que
vas-y,
faut Abdel. Pas dire que Zidane il doit aller dans un défi qui dans lequel il n'a pas entre guillemets les pleins pouvoirs. Pour moi, pour se tester, même 3 Ligues des Champions, même 6 ans dans tel club, même le Real, ça a été très bien, ok, mais pour moi, le voir dans un truc où il n'a pas l'habitude d'être, même s'il a des valeurs, même s'il a des choses.
Pas dans son plan de carrière.
C'est peut-être
ce alors.
Mais Abdel, moi ça reste dans la facilité.
Abdel,
alors si tu choisis que des trucs où tu peux être que bien.
Ouais. Pas ça. Abdel, bien. Abdel, d'accord. C'est Abdel, pas bon. Abdel, ça c'est
non,
vrai.
Non mais Abdel, je l'ai vu.
Alors,
Yassine, si t'es que bien.
Ouais.
Vas-y, je suis que bien.
Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On s'écoute. S'il vous plaît.
Pour te répondre.
S'il vous plaît.
Dans la gestion,
on se calme.
C'est pas les présidents qui gèrent les clubs. On appelle ça des managers généraux. Et les managers généraux, c'est eux qui gèrent les clubs. C'est pas le directeur sportif ou tout ça. Et ou le président. Le président, tu le vois même pas une fois par semaine. En Angleterre, la
merci
mentalité des Anglais.
Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît.
Non mais juste pour prendre un exemple très terre à terre pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde avec Abdel. Je te vois beaucoup dans les fast food. Par exemple, est-ce que je te reproche de ne pas aller dans les restaurants vegan bio? Non, je te le reproche pas parce que j'ai pas envie que voilà, non mais bien sûr. Alors, non mais j'essaie d'avoir un exemple
bien sûr, terre. Bien sûr.
Zinedine Zidane, il a une personnalité, il a un historique,
je le défends. Le bio, le bio c'est cher, si toi tu as les moyens d'aller bio,
c'est là où le parallèle est intéressant, c'est pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens.
Alors,
tu sais c'est une question de culture, c'est une question de personnalité.
Voilà. Alors, la question, on va se la poser, mais Mourad, c'est très bien. Ouais. Arrête avec les quartiers nord. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 4 fois que tu parles des quartiers nord. Et t'aimes bien les quartiers nord? Voilà Moustapha justement qui parlait. Eh ben oui, mais bon.
Pas Marseille alors?
Bah, j'ai l'impression que le train est passé pour l'Olympique de Marseille.
Voilà, c'est ça.
J'ai l'impression que le train est
passé. Laisse Marseille.
Alors, pour résumer, l'Olympique de Marseille, il l'a jamais pris en tant que joueur.
Oui.
Ok, il faut pas oublier.
N'oublie pas aussi l'époque.
Zizou, il est peut-être marseillais.
N'oublie pas aussi l'époque, Boula.
Il était à Cannes. C'est pas Marseille qui sont venus le chercher.
Et rappelle-toi où était Marseille à ce moment-là.
Il est parti de Cannes, il est parti à Bordeaux, il n'est pas parti à Marseille. Alors, faut que tu saches, il y a un truc qu'il faut savoir.
Oui, mais les gens le savent.
C'est un Marseillais, mais nul est prophète dans son pays.
Ah ben, Hervé, on va terminer avec Mourad, rapide.
Ah non, moi j'ai rien à dire.
Ah, c'était fun. Ah ben, j'ai rien à dire. Ah ben, peut-être un mot sur le vestiaire séduit par la méthode Xavi aussi. Au Barça.
C'est vite dit, je pense qu'il va falloir quand même attendre quelques semaines pour se faire un avis. Enfin, le Barça a remporté une victoire. Étriqué contre l'Espagnol à l'arrache, vraiment 1-0. Donc je pense qu'il va falloir hausser comme le niveau de jeu si le Barça espère passer en 8ème de finale de Ligue des Champions.
En attendant l'arrivée de Bagdad Bounedjah.
Ah ben pourquoi
pas. Je ne pense pas.
Pourquoi
bien
pas.
Sûr.
Il ne pense pas, Hervé. Ouais. Il a démenti Bounedjah.
Ah, il va pas se tirer une balle dans le pied, il va pas confirmer alors qu'il y a des négociations en cours.
Un grand merci Abdel ce soir, magistral tout comme Mourad, Boula aussi, Fred et Hervé. Fred qui nous a écouté, la question n'est pas passée, ça ne fait rien. On l'aura peut-être dans la semaine avec nous et sans oublier toi Yacine de m'avoir accompagné. Un grand merci aussi aux auditrices, aux éditeurs de Beurre FM. Un petit clin d'œil aussi à Ryan, à Nawef, sans oublier Kamel qui se reconnaîtront. Oui. Fares et Fawes, voilà, ils se reconnaîtront eux aussi. On se retrouve dès demain, bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.